In his opening prayer, Brother Peterson,
dans sa prière d'ouverture, Frère Peterson, où êtes-vous, Frère Peterson? Vous avez utilisé le mot « famille » dans votre prière. Ça m'a touché, ça me touche toujours. Je suis reconnaissant, ravi même d'être vous, avec vous, parce que vous êtes pour moi une famille. Tout ce que j'ai entendu m'a inspiré, Frère Webb, Frère Sœur Cordon, Frère Clark, et je prie pour être à la hauteur de leurs interventions. En vous saluant maintenant et en faisant référence à la prière de Frère Peterson et cette idée de famille, j'aimerais dire que c'est vraiment comme cela que je vous vois. Je sais que pour moi c'est très spécial et aussi pour le conseil du département. Vous savez, j'ai signé mon premier contrat avec le DE il y a 54 ans. Et depuis quasiment tous les ans de notre vie, nous avons été affiliés avec vous d'une manière ou d'une autre. Lorsque Pat et moi donc avons pris cette décision de entrer dans le séminaire et institut, nous ne savions pas à quel point ce lien serait fort et durable. Nous étions peu sûrs de nous, et sans l'amitié et le véritable amour fraternel de nos collègues enseignants, les superviseurs et autres personnes à nos débuts, eh bien, je crois que nous n'aurions peut-être pas eu assez d'assurance pour continuer. Ces liens, donc, qui remontent à nos premiers pas dans le programme, comptent toujours parmi nos amitiés les plus chères, un demi-siècle plus tard. Évidemment, il ne faut pas oublier les centaines, peut-être même on devrait parler de milliers d'élèves et d'étudiants que nous avons enseignés en cours de route. Ma prière est que cet esprit de famille ne se perde jamais dans le département d'éducation d'Église. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu servir dans ce département. Avec ce chant d'amour, donc, en guise d'introduction, je souhaite, entre autres, vous transmettre tout l'amour et la confiance que les autorités générales et officiers généraux de l'Église ont tous pour vous. Dans nos conseils, nos comités, nous passons une très grande partie de notre temps, et je ne sais pas exactement quel pourcentage, vous savez, on a beaucoup de membres de ces conseils ici parmi nous aujourd'hui, on le fait tous ensemble, je ne sais pas combien de temps on y passe en pourcentage, mais peut-être que je pourrais, si je devais deviner, peut-être qu'ils pourront me corriger après, je dirais qu'on passe entre 30 à 35% donc de tous nos conseils et comités à parler d'une manière ou d'une autre de la jeunesse de l'Église. Donc les tranches d'âge que vous enseignez de manière générale, ainsi que ceux, bien sûr, qui s'apprêtent à venir vers vous. Nous parlons du monde dans lequel ils vivent, des défis auxquels ils sont confrontés. Frère Clark en a parlé, Sœur Cordon également. Et des réalités sociales et culturelles qui semblent se présenter à eux de plus en plus tôt. Alors, toutes ces réalités ne sont pas mauvaises, mais certaines le sont. Ces jeunes ont besoin de toute l'aide possible et, heureusement, ils peuvent l'obtenir. Dieu est à la barre de ce navire, il arrivera donc à bon port. Il a fait pour cela tous les préparatifs nécessaires. Par exemple, je n'ai jamais pensé que le hasard ait voulu que nous fassions débuter nos étudiants au programme du séminaire à l'âge où Joseph Smith a reçu la première vision. Je suppose que notre Père Céleste estimait qu'à 14 ans environ, Joseph était suffisamment mûr pour le mettre sur la voie donc, de sa grande mission prophétique. De même, pouvons-nous supposer qu'en général, c'est l'âge auquel le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ des autres jeunes peut commencer à mûrir, se développant, nous l'espérons en tout cas, dans les années à venir, jusqu'à devenir le puissant moteur qu'il sera pour le reste de l'éternité. C'est certainement pour cette raison que le Seigneur a inspiré la structure de notre programme, touchant ainsi le cœur des jeunes alors qu'ils approchent de la maturité, intensifiant nos rapports avec eux leur donnant des expériences importantes en milieu de semaine, plutôt que de se reposer uniquement sur celle de l'école du dimanche. Alors que l'Église s'oriente de plus en plus vers un programme centré sur le foyer, nous pouvons être fiers que le DEE, donc, dont l'objectif est l'étude en semaine et à la maison, ait toujours été orienté de cette manière. Plus que jamais dans son histoire, l'ajustement en cours rapproche les séminaires et instituts du programme d'études générales de l'Église. D'ailleurs, à ce sujet, laissez-moi relever le beau compliment des frères qui nous président lorsqu'ils nous ont demandé d'aligner le programme du séminaire au calendrier de rotation de l'Église, donc pour l'Église des pour l'étude des Écritures. C'est déjà bien que nous recevions un tel compliment, mais ce qui est particulièrement gratifiant, c'est qu'il vienne du président de notre conseil d'administration. Laissez-moi vous rappeler qui c'est. Voici ce qu'a dit le président Nelson en annonçant donc ce développement. Nous sommes heureux d'annoncer que, à compter de 2020, le programme d'études du séminaire adoptera un calendrier annuel et que les classes étudieront le même livre d'écriture que celui utilisé pour le programme « Viens et suis-moi ». Ce changement améliorera l'approche de l'enseignement de l'Évangile centré sur le foyer et soutenu par l'Église grâce à une étude unifiée au foyer, à l'école du dimanche et au séminaire. Alors que vous réfléchissez à ce changement, pensez à ceci. Votre capacité à marquer davantage que n'importe quelle autre génération, de marquer le monde davantage que n'importe quelle autre génération, dépend entièrement de votre degré de dévouement à Jésus-Christ. Chacun de vous a la responsabilité d'aider à enseigner l'Évangile dans son foyer. Le séminaire et l'Institut vous aideront à transformer votre foyer en un sanctuaire de foi, un lieu où on enseigne, apprend, vit et aime l'Évangile de Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr de ce que vous pensez, mais ça fait longtemps que je suis dans ce programme et il y a des années, je crois qu'un président de l'Église nous parle de manière si spécifique et s'adresse à nous comme cela directement. Je suis reconnaissant pour cela, président Nelson. Soulignons qu'au cours de cette période de petits et grands changements, les autorités générales n'ont jamais autant discuté du personnel et des règles du séminaire et institut. Ils n'y ont jamais autant réfléchi ou n'ont jamais eu autant de contacts directs avec eux que dans toutes mes années de service au DE. Alors, quel moment incroyable de faire partie de cette famille. Alors, permettez-moi maintenant de passer à l'objet de tous ces efforts, la raison pour laquelle nous enseignons et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. L'élève, le centre de notre préoccupation, notre affection. Alors que le monde devient de plus en plus laïque, comme l'a dit frère Clark, et tout le monde d'ailleurs, nous devons apprendre à être plus utiles et exemplaires pour nos jeunes hommes et femmes qui doivent vivre en défendant leur foi dans une culture qui la nie souvent, ou pire encore, qui la rabaisse. Le fossé qui sépare nos jeunes fidèles et le monde, parfois antagoniste, qui les entoure, se creuse, ou du moins en général, chaque jour de plus en plus. Et bien sûr, cela s'inscrit bien dans le cadre des prophéties des derniers jours, mais ce n'est pas plus agréable à discuter ni plus amusant à affronter pour autant. Dans ce petit résumé du monde, nos élèves sont appelés la génération Z, de manière attachante, donc en raison de certaines caractéristiques. Ces caractéristiques soulignent certains de nos défis en matière d'enseignement. Vraiment, ils sont toujours connectés à quelque chose. Ils n'ont jamais connu de monde sans Internet, ni téléphone cellulaire, ni écouteurs. Google a toujours existé pour eux. Ils n'ont peut-être jamais vu de téléphone à cadran ou téléphoné depuis ce qu'on appelle une cabine téléphonique. Ce n'est pas grave, puisqu'ils préfèrent les SMS de toute façon. Dans ce réseau électronique omniprésent, ils ont été exposés très tôt à une pornographie flagrante et très destructrice, et cela très très tôt. Ils ont tendance à soutenir le mariage homosexuel et les droits des transsexuels, dans le cadre de la vie quotidienne. En fait, il serait rare pour l'un d'eux de ne pas avoir d'amis dans la communauté LGBT. En raison de cette proximité, la limite entre amitié et approbation commence à s'estomper et à devenir difficile à reconnaître. Ils sont post-chrétiens, près du quart. On parle ici du monde, bien sûr. Près du quart, 23% des Américains adultes et un tiers, donc des millénaires, ne revendiquent aucune identité religieuse. Beaucoup des jeunes de la génération Z grandissent dans des foyers sans aucune religion, manquant ainsi d'expérience ou de contexte religieux dans leur vie. Une étude récente sur l'attitude des adolescents australiens à l'égard de la religion a fait la une des journaux en disant que 52% d'entre eux ne s'identifient à aucune religion et seulement 37% croient en Dieu. Le pasteur et auteur James Emery White a beaucoup écrit sur leur situation spirituelle. Il a dit, d'abord, ils sont perdus. Ils ne vivent pas seulement dans un contexte culturel post-chrétien qui les façonne, ils n'ont même pas le souvenir de l'Évangile. Le degré d'analphabétisme spirituel est tout simplement stupéfiant. Deuxièmement, ils sont sans dirigeant. Ils reçoivent peu ou pas de conseils de leur famille et moins encore dans leur tentative d'en trouver sur l'Internet. Selon un article de USA Today, la génération Z est le sous-groupe le plus isolé. Et l'article citait une étude de BYU en 2010 qui concluait que la solitude a le même impact sur la mortalité que de fumer 15 cigarettes par jour, ce qui la rend encore plus dangereuse que l'obésité. Environ 53% des Américaines de 13 ans ne sont pas satisfaites de leur corps. Ce nombre atteint 78% lorsque les filles ont 17 ans. Plus de 50% des adolescentes et 30% des adolescents contrôlent leur poids de façon malsaine, comme par exemple en sautant des repas, en jeûnant, en fumant des cigarettes, en vomissant et en prenant des laxatifs. Enfin, ils ont une capacité d'attention réduite. Certains rapportent que la durée d'attention moyenne d'un Z est d'environ 8 secondes. Je les aurais perdus dès les trois premiers points montrés ici. Alors, les enseignants du séminaire et institut, bien sûr, ne régleront pas ces problèmes du jour au lendemain. Mais les autorités générales comptent sur votre connaissance et votre préparation spirituelle, votre capacité à répondre aux questions correctement et au bon moment. De par votre contact en milieu de semaine, vous êtes plus accessible aux étudiants que les autres enseignants de l'Église. Donc, soyez prudents, mais soyez certains que les autorités générales veulent et attendent votre aide de manière formelle et informelle, en classe et à l'extérieur, pour enseigner les règles, les pratiques et la doctrine de l'Église. Soyez ouverts à l'esprit. Laissez un peu de marge de manœuvre dans votre plan de leçon. Si vous devez raccourcir un peu la leçon pour rendre votre témoignage et encourager une discussion sur un problème contemporain, eh bien, faites-le selon l'inspiration de l'esprit, quand cela semble approprié. Bien sûr, vous devez le faire sans emprunter le rôle de dirigeant de prêtrise ou d'auxiliaire, parce que ce n'est pas votre place. Marcher sur cette corde raide a toujours été un défi pour notre département, et ça le sera toujours. Ça requiert du bon sens et la direction de l'esprit. Mais c'est un défi qui mérite d'être relevé. Et je vous applaudis vos efforts. Tous sont importants, et le message doit être clair et cohérent à tous les niveaux. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De toute évidence, étant donné les forces incroyables exercées à notre époque, il faudra un enseignement de l'Évangile si puissant que rien ne pourra ébranler la foi ou détourner le chemin de nos jeunes qui sortent de votre classe et retournent dans le monde. Ce type d'enseignement est plus facile à dire qu'à faire, mais vous le savez d'ailleurs, mais chacun d'entre nous peut être meilleur et plus puissant qu'il ne l'est, que nous le sommes parfois. En abordant une tâche aussi décourageante, souvenez-vous d'au moins une chose aujourd'hui. Rappelez-vous qu'un élève n'est pas un vase que l'on remplit. Un élève est un feu qu'on allume. En tant qu'instructeurs de l'Évangile, nous devons être des pyromanes spirituels. Nos leçons doivent être des dispositifs incendiaires. Nous devons être des pyromanes, d'ailleurs moins maniaques que pyro, je suppose. Alors, laissez-moi vous expliquer avant de me dénoncer aux autorités générales ou à la police. J'ai toujours été impressionné par le fait que chaque fois qu'un enseignement est important dans le Livre de Mormon, le moment est décrit en disant que la personne est instruite avec puissance et autorité. Donc là, je citais. Et c'est ce que je souhaite le plus dans mes enseignements. Et vous aussi, j'espère. Mais ne me mécomprenez pas. Je ne parle pas d'élever les décibels de votre voix, d'être théâtral dans votre présentation ou de forcer des émotions fausses. Je parle de quelque chose qui relève essentiellement de l'esprit. Un esprit qui se manifeste différemment selon les instructeurs. Vous devez être vous-même. Vous ne pouvez pas être Bruce McConkie ou Boyd Packer ou Russell Nelson, mais nous ferions bien de nous demander pourquoi ces instructeurs nous touchent si efficacement. Apprenez tout ce que vous pouvez des grands instructeurs, mais bien entendu, vous devez enseigner naturellement à votre façon. Mais quelle que soit l'approche, en fin de compte, le résultat devrait être un enseignement puissant et faisant autorité. Permettez-moi d'utiliser quelques exemples du Livre de Mormon. Élaman 5 contient l'histoire de Néphi et Léhi, du nom de leurs grands-parents, et à qui on avait confié la tâche d'enseigner les Lamanites du pays de Zarahemla. En plus d'enseigner ce groupe difficile, Néphi et Léhi ont également approché les dissidents, c'est-à-dire les Néphites apostats qui s'étaient joints aux Lamanites dans leur cause contre les prophètes de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais ces deux groupes représentent le genre de personnages hostiles que je ne serais pas particulièrement pressé de voir le lundi matin. À ce stade, les Lamanites sont hostiles, en colère, et déterminés à obtenir rétribution pour une dispute avec les Néphites dont ils avaient oublié l'origine, d'ailleurs, pour la plupart. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, vous avez les ex-mormons qui sont pour Jésus, les apostats locaux qui faisaient autrefois partie du collège des prêtres et qui, dans un cas ou deux, ont peut-être servi une mission fidèle pour s'égarer ensuite. C'est eux, d'ailleurs, qui utilisent le mot « mormon », pas moi. Ils enseignaient pour nous auparavant et maintenant ils enseignent contre nous ou le royaume de Dieu. Néanmoins, les Écritures disent qu'à ces groupes très difficiles, Néphi et Léhi prêchèrent avec une grande puissance, de sorte qu'ils confondirent beaucoup de ces dissidents qui avaient quitté les Néphites. Et il arriva que Néphi et Léhi prêchèrent aux Lamanites avec une si grande puissance et une si grande autorité, car du pouvoir et de l'autorité leur avait été donné, afin qu'ils puissent parler et ce qu'ils devaient dire leur était aussi donné. Alors, réfléchissez un moment. Comme il serait merveilleux que chaque instructeur de l'Église sache faire ces deux choses, dans l'Église ou dans le département d'éducation de l'Église. Ces deux choses, donc, de savoir comment parler comme il faut et dire ce qu'il faut. Là, ce serait vraiment un vrai don des langues, même dans votre propre langue. Si je comprends bien, c'est le don qu'ils avaient reçu dans ce cas. Ils avaient du pouvoir et de l'autorité qui leur avait été donné afin qu'ils puissent parler et ce qu'ils devaient dire. C'est pourquoi ils parlèrent au grand étonnement des Lamanites. Ce mot « étonnement » fait-il écho à un récit antérieur du Livre de Mormon ? Pensez à Mosia 27, où Alma et les fils de Mosia se rebellaient contre Dieu. Là, au verset 11, l'ange du Seigneur leur apparut, et il descendit comme dans une nuée, et il parla comme avec une voix de tonnerre, qui fit trembler la terre sur laquelle ils se tenaient. Veuillez excuser mon petit commentaire éditorial spontané encore, mais pensez-vous que c'était vraiment un tremblement de terre à part entière? Pensez-vous qu'on serait monté à 5, 6, 8 ou 9 sur une échelle de Richter, ce qui aurait bien sûr provoqué des tsunamis dans les grandes profondeurs et des changements de terrain? Peut-être, ça aurait certainement pu être le cas, mais j'ai tendance à penser ici que non. Je pense que c'était l'un de ces tremblements de terre personnels que le Seigneur envoie aux personnes. Je pense que la terre a tremblé pour Alma et les fils de Mosia, mais qui sait si elle a vraiment tremblé pour d'autres? Vous avez certainement eu cette expérience en classe. Vous avez dit quelque chose qui a touché un étudiant si profondément qu'il pâlit, ou a les larmes aux yeux, ou les deux d'ailleurs, touché au plus profond de son âme. Et pourtant, ceux qui sont assis à sa droite, à sa gauche, ne semblent rien sentir du tout. Ça arrive tout le temps dans le champ de la mission. Vous l'avez fait d'ailleurs. Une équipe enseigne une famille quelque part dans un immeuble. Ils ont une leçon tellement bouleversante avec un couple de l'appartement 106 qu'ils se soulèvent. Mais les voisins du 105 regardent leur émission télévision avec béatitude et ceux de l'appartement 107 essaient de trouver le score du match en cours. Géologiquement, je ne sais pas si on peut promettre des tremblements de terre mesurables à l'échelle de Richter, mais je pense que le Seigneur et les Écritures peuvent certainement vous promettre des tremblements de terre personnels qui transforment un élève au cœur de son être. Mais, pardonnez-moi, je m'égare. Donc, continuons au verset 12 de Mosia 27. « Et si grand fut l'étonnement d'Alma et des fils de Mosia, donc si grand fut leur étonnement qu'ils tombèrent par terre et ne comprirent pas les paroles qu'il leur disait. Et alors Alma et ceux qui étaient avec lui tombèrent de nouveau par terre, car leur étonnement était grand, car ils avaient vu de leurs propres yeux un ange du Seigneur, et sa voix était comme le tonnerre qui secouait la terre. Et alors l'étonnement d'Alma était si grand qu'il devint muet, de sorte qu'il ne put ouvrir la bouche. Oui, et il devint faible, de sorte qu'il ne pouvait plus bouger les mains. Ma prière, ce à quoi je réfléchis, ce que je souhaite pour le département d'éducation de l'Église, c'est un enseignement vraiment étonnant. Nous devons étonner nos étudiants et le faire avec le pouvoir et l'autorité de Dieu, que reçoit un instructeur, professionnel ou non, qui enseigne l'Évangile de Jésus-Christ avec force et sincérité. Est-ce que vous connaissez la racine du mot « étonné » ? Je ne sais pas ce qu'il en est de l'Égyptien ou de l'Hébreu réformé, mais en anglais, il provient de « tonnerre », qui signifie « tonnerre ». Est-ce que cela vous aide à comprendre pourquoi, après cette conversion, Alma s'écriait « Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur. » D'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix qui fait trembler la terre et d'appeler tous les peuples repentir. Oui, j'annoncerai à toute âme, comme avec la voix du tonnerre, le repentir et le plan de rédemption, afin qu'elle se repente et vienne à notre Dieu, afin qu'il n'y ait plus de tristesse sur toute la surface de la terre. Eh bien, chers amis du DE, il est facile de comprendre pourquoi Alma désire l'influence des anges, une voix de tonnerre semblable à la trompette de Dieu qui secoue la terre. C'est simple, parce que ce qui a fonctionné pour lui doit sûrement fonctionner aussi pour les autres. Des étudiants se repentant sur le dos pendant 3 jours, une purification si puissante qu'il ne pourrait ni ne voudrait s'en détourner. Des vies entièrement consacrées à l'édification du royaume de Dieu pour toujours. Voilà vraiment un enseignement puissant. Comme Alma, nous comprenons que nous ne sommes pas des anges. Nous n'avons pas cet effet chaque fois que nous sommes devant un groupe d'étudiants. Mais l'avantage de nos appels et nos positions au sein du 2E, c'est que nous pouvons justement essayer de le faire au figuré et nous avons donc constamment des classes pour cela. Revenons maintenant à Élamant 5. Souvenez-vous que Néphi et Léhi n'étaient pas des anges, mais des mortels fidèles ayant une mission et un message et qui enseignaient avec du pouvoir et de l'autorité. Ils ont vu 8000 Lamanites se faire baptiser au repentir et se joindre à l'Église de Dieu. Avec le feu venant d'en haut et la flamme de l'Esprit, la vérité a enflammé les âmes de ce groupe entier d'étudiants, en quelque sorte. À mon avis, 8000 serait un assez bon rapport hebdomadaire de zone pour n'importe quelle équipe dans n'importe quelle mission. Veuillez me permettre un instant de plus de parler d'un autre instructeur étudiant qui a non seulement vu son âme s'enflammer, mais qui a payé le prix ultime pour son service avec son corps en étant lui-même brûlé. Abinadi. Depuis ma jeunesse, Abinadi est l'un des prophètes que j'admire le plus dans tous nos livres canoniques. Il est pratiquement inconnu lorsque nous le découvrons, sans héritage prophétique ni lignage familial célèbre. Alors que les choses dégénèrent dans la colonie obstinée de Zénith, Abinadi est appelé à crier le repentir au fils et successeur pathétique de Zénith, le roi Noé. Vous connaissez l'histoire. Noé lance immédiatement un arrêt de mort et Abinadi est obligé de fuir. Après 2 ans de clandestinité, Abinadi revient enseigner et témoigner. Alors, je souligne ici l'apparente innocence enfantine de ce prophète dans cette histoire. Il a passé 24 mois dans l'isolement total et désormais déguisé pour rester anonyme. Et pourtant, à son retour, il commence par dire « Ainsi m'a commandé le Seigneur, disant « Abinadi, va et prophétise ». Alors, nous pouvons alors nous interroger sur l'efficacité du déguisement, mais certainement pas sur sa foi et sa détermination. Prophétisant hardiment contre les abominations du roi Noé et de sa cour, Abinadi est arrêté et traduit devant le tribunal qu'il avait condamné verbalement. Interrogé sans pitié par le conseil, ce puissant prophète leur répondit hardiment et tint tête à toutes leurs questions et les confondait dans toutes leurs paroles. Passant ensuite de la défense à l'offense, il commence environ 5 chapitres et demi de doctrine parmi les plus puissants de tout le livre de Mormon. À peine a-t-il commencé, cependant, que Noé, épris de culpabilité et plein de haine, demande à ce qu'il soit tué. Tout cela sert à préparer le terrain pour cette scène à jamais gravée dans mon imagination. Pas tout à fait comme Arnold Freiberg l'a illustré dans son merveilleux tableau, mais pas loin. Abinadi était certainement attaché, étant prisonnier, comme il pouvait donc le faire à l'époque. Nous ne connaissons pas son âge. Freiberg en a fait un vieil homme, mais ce n'est pas précisé dans le texte. Donc on ne sait pas son âge. Fort physiquement, nous ne le savons pas non plus. Mais il vient de passer 2 ans en isolement, où il y avait peut-être peu de nourriture. Pensez à Élie, nourri par des corbeaux. Est-ce que vous avez vu déjà des griffes de corbeaux? Je ne pense pas que ces petits oiseaux pouvaient tenir de grands mets en vol. On n'en sait rien, mais Abinadi était peut-être affamé, fatigué et pour le moins faible physiquement. En tout cas, emmenez cet individu et tuez-le, s'écrie le roi Noé. Qu'avons-nous en effet à faire avec lui ? Et ils s'avancèrent et tentèrent de porter la main sur lui. Mais il leur résista et leur dit, « Ne me touchez pas, car Dieu vous frappera si vous portez la main sur moi. Car je n'ai pas remis le message que le Seigneur m'a envoyé remettre. Car l'Esprit du Seigneur était sur lui et son visage brillait d'un resplendissement extrême, comme celui de Moïse, pendant qu'il était sur la montagne du Sinaï, pendant qu'il parlait avec le Seigneur. Et il parla avec puissance et autorité de Dieu. » Puissance et autorité. Encore une fois, lorsque j'ai commencé à écrire ce discours et que j'ai commencé à utiliser, que je voulais utiliser l'histoire d'Abinadi, je ne me souvenais même plus que ce récit se terminait avec cette phrase qu'il parlait avec puissance et autorité de Dieu. Lire de l'encre sur une page est une chose, mais visionner dans son esprit et entendre dans son cœur comme avec une voix de tonnerre en est une autre. Ne me touchez pas, car Dieu vous frappera si vous portez la main sur moi. Je ne peux presque jamais lire ces paroles sans larmes. Et vous pouvez le voir d'ailleurs. Elles sont si majestueuses, si courageuses, riches d'une force monumentale et tranquille. Rien n'indique qu'il criait. Rien n'indique qu'il ait bougé un seul muscle. Sous la menace de gardes armés et attachés lui-même, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais apparemment, ce qu'il a dit et sa manière de le dire ont fonctionné. Je dis apparemment parce que rien n'indique que les gardes aient fait un seul effort pour l'emmener. Et le roi Noé et ses prêtres n'ont rien dit pendant les quatre chapitres captivants qui suivent. Nous ne pouvons pas réfléchir à tous les merveilleux exemples de ce type dans les Écritures, mais ils sont partout. J'invite chacun de nous à les rechercher, à y réfléchir et à demander une part de ce don si conforme à nos appels. Ce type d'enseignement est exigeant et très difficile à atteindre. Si je savais enseigner de cette façon, je réussirais certainement mieux mes enseignements. Mais voici ce que je sais. Si vous n'êtes pas passionné par un sujet, il ne vous sera jamais possible de faire en sorte que vos étudiants ressentent la même chose. Puis-je me répéter? Si vous n'êtes pas passionné par un sujet, il ne vous sera jamais possible de faire en sorte que vos étudiants ressentent la même chose. Évidemment, la source ultime de cette passion, il en était question au sujet d'Abinadi, car l'Esprit du Seigneur était sur lui et son visage brillait d'un resplendissement extrême. Si l'Esprit est la clé d'un enseignement étonnant, et on en a eu des exemples aujourd'hui, si c'est donc la clé d'un enseignement étonnant, ce qui est bien sûr le cas, il est très risqué de parler en utilisant constamment des vieilles notes ou les exemples de l'un de vos collègues ou de se canter à une interprétation d'un discours de conférence générale. Tout cela est valable au bon moment et même spectaculaire à l'origine. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à avoir recours à tout ce qui vous permet de vitaliser et varier votre enseignement. Mais ce qui importe le plus est ce que vous ressentez lorsque vous prononcez les paroles. Rien ne peut remplacer ça. Oh, que je voudrais être un ange, parler d'une voix qui fait trembler la terre. Souvenez-vous, un étudiant n'est pas un vase qu'il faut remplir, un étudiant est un feu qu'il faut allumer. Et si nous le faisons vraiment bien, nous pourrions peut-être mériter un jour de rencontrer ceux qui ont été brûlés au bûcher, justement parce qu'ils savaient obtenir une flamme avec du silex. Allez-y,
vous
anges de gloire, dans le monde entier. Allez étonner vos étudiants. Je témoigne de la divinité de cette œuvre. Je témoigne de la divinité de votre appel. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas consacré ma vie à un conte de fées. Je n'ai pas consacré ma vie, donné ma vie, ni vous, à la recherche de mensonges, de non-vérités élaborées. C'est la vérité. Ce n'est pas une fable. J'ai donné ma vie, vous donnez la vôtre. Les meilleures personnes que je connaisse ont donné la leur ou la donnent. C'est la vérité. La vérité qui vient du Dieu Tout-Puissant. Et qu'il vous blesse alors que vous l'enseignez. Au nom de Jésus-Christ, Amen.